90.3 FM.
Alex qui vous parle depuis le salin depuis le Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle depuis le salon de notre collaborateur Marc-Antoine avec qui je suis présentement. Allô? Ainsi qu'avec notre autre collaboratrice Eve Laurence. Allô Eve Laurence?
Salut!
Donc, comme vous pouvez entendre, notre très cher studio ACKUT n'est pas encore ouvert. Donc, on fait encore avec les moyens du bord, même si on a très hâte d'y retourner. Donc, c'est un petit message.
Entendez-nous.
Entendez-nous, direction de ACKUT. OK. Donc, ceci étant dit, vous êtes sur les ondes de ACKUT à l'émission Café pour votre émission culturelle. Il est 18h et ce soir, on vous offre une émission super varié avec plusieurs suggestions de tout type. Marc-Antoine va nous parler d'art urbain, de documentaires, de cinéma et de jeux vidéo. Eve Laurence, quant à elle, va nous parler du Festival international de littérature. On vous fera aussi une mini-critique de la pièce « Qui veut la peau d'Antigone » que moi et Eve Laurence revenons tout juste de voir. Et pour finir, je vais vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Fallon du collectif Bande de Gwyn qui ont fait paraître la version française, qui vont faire paraître la version française du mythique livre « Stone Butch Blues » de Leslie Fernberg. Pardon. Et avec tout ce fou menu, est-ce que Marc-Antoine, tu veux te lancer en nous parlant d'un de tes sujets?
Oui, bonjour tout le monde. En fait, j'ai un menu assez hétéroclite parce que je me suis rendu compte que j'ai pas eu un été particulièrement culturel, ayant travaillé beaucoup, mais je vous rassure, j'ai préparé ma rentrée culturelle, donc dans les prochaines semaines, ça sera des plus intéressants. Par contre, j'ai décidé, pour l'événement de mon retour, de faire peut-être un petit topo là, rapide des petites découvertes que j'ai faites durant l'été. Donc, je pourrais commencer notamment en film avec le film Annette, qui, à mon avis, est un petit miracle dans l'univers de la comédie musicale, parce que oui, disons-le, c'est une comédie musicale, n'est-ce pas?
Oh mon Dieu, mais j'abonde tellement dans ton sens, Marc-Antoine, c'est un plaisir visuel et auditif que je me suis surprise avoir eu.
Ouais, vraiment, j'utilise le terme miracle parce que, ben, qui dit comédie musicale, en général, ça a l'effet d'une moufette, là, je veux dire, on
se connaît.
Ouais, ben vraiment, moi aussi. Par contre, encore une fois, il faut que je célèbre le génie de Léos Carax, d'ailleurs réalisateur de Holy Motors, que je vous conseille tous et toutes. Mais vraiment, là, je voudrais mettre l'emphase sur la mise en scène puis la direction artistique de ce film-là. Puis pour des artistes qu'on nomme souvent pas, qui sont Florian Sanson et Pascaline Chavanne, pour ne pas les nommer, un grand décorateur et une grande costumière, ce film-là est absolument un bijou pour les yeux. C'est très long, c'est très exigeant à regarder, mais ça mérite d'être vu au cinéma. D'autant plus qu'il est si beau, je vous conseille peut-être pas de le regarder sur votre ordinateur personnel, mais bien de vous déplacer au cinéma du parc, il est encore disponible.
Ah oui, c'est tellement bon. Dès la première scène, là, comme avec une entrée vraiment
très Léo Carax, là, qui se met lui-même en scène, en chanson et en musique avec les acteurs qui sont pas en costume. C'est incroyable.
Ah oui, oui, oui.
J'abonde dans le sens de ma chanson.
On est dans du grand film, dans le sens de l'art du film, là, franchement. Mm-hmm. Précipitez-vous, ça va bientôt ne plus être à l'affiche. Mm-hmm.
Puis, cinéma du parc.
Puis oui, c'est une comédie musicale. Et non, Adam Driver ne chante pas particulièrement bien, mais ça change rien.
Mais on peut tout lui pardonner, ouais. À Adam Driver quand même.
Non. Pas sa très mauvaise performance dans Star Wars. Bref. Oui, ben oui. Ah oui, encore à moi? C'est fascinant.
Mais t'as tellement de choses à dire.
J'ai tellement de choses à dire. Ben, allons-y.
T'as vécu tout un été culturel.
J'ai vécu tout un été non culturel. Bon, prochaine chose, là, histoire de plomber l'atmosphère. C'était le 11 septembre, il y a de cela quelques jours, 5 jours, si je ne m'abuse. Et très d'actualité, je vous recommande fortement... Sur Netflix, la série documentaire Turning Point 9/11, c'est très d'actualité, mais c'est à la fois touchant, c'est perturbant et c'est surtout pas du tout complaisant à l'égard de qui que ce soit. Je dois avouer que de l'information ou des films sur le World Trade Center, d'en avoir de l'information qui n'est pas orientée, c'est difficile. Je dis pas que ce documentaire-là ne le fait pas, mais je trouve qu'il donne autant la parole au côté afghan-irakien de la question qu'au côté américain. Je dois avouer aussi que c'est extraordinairement monté parce que j'ai souvent l'impression, en regardant la série, que c'était à la fois un film d'horreur, mais aussi un thriller politique. Puis ça, j'avoue que cette histoire-là, bon, pour ceux et celles qui l'ont vécu, je pensais avoir assez lu et connu la chose, mais... on en apprend vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça fait... C'est vraiment pas un film de une heure, mais c'est vraiment 5 bonnes heures. Extrêmement bien monté, extrêmement beau aussi. Puis j'ai dévoré la série. C'est pas une pièce d'art remarquable.
Maintenant, passer en musique.
Yes.
Parce que là, on n'a rien écouté à date. Là.
Non.
Il y a un projet... basé à Montréal, que j'avais envie de vous faire découvrir, qui s'appelle Anna. Ça s'écrit A-N, barre en bas, N-A. Marc-Antoine, tu as la tête, tu les connais, hein? Je savais que ça serait ton genre. C'est un projet qui s'auto-désigne comme de l'électro-punk par ses deux membres, qui allie effectivement assez bien le synthwave, le darkwave, le techno agressif avec une voix féminine et intense. Ça rappelle un peu Boy Archer. Tu as la tête encore? Oui, je sais que, en tout cas, les personnes qui aiment ce type de musique, je vous invite à, si vous pouvez un jour aller les voir en spectacle, je vous dis, ils ont une énergie incroyable sur scène, ils maîtrisent leur art, ils donnent vraiment envie d'être bagnés sans arrêt, de sauter, de danser. Puis c'est un duo qui, semblerait-il, font de la musique et des performances musicales depuis 30 ans. Fait que ils ont un certain âge, mais ils ont vraiment beaucoup d'expérience derrière la cravate. Alors, on va écouter Guilty, qui est paru sur le tout dernier album sorti en juin dernier, sur No Future Is Now Reality?
C'est ça.
Reality.
No future is not reality.
C'est ça. Et puis, ben, si vous voulez lire le mot, je vais publier le lien vers l'album sur notre page Facebook Café Trait d'Union Sécurité 93 FM. On écoute ça maintenant. Guilty.
Same questions, how to fix all the mess around me. It's been too long, 10 years, quite a lot, lots of wine. No hope.
right? Do I have to go back to my shrink? Do hypnosis.
Bonsoir, ici Ève-Laurence au micro et je prends un petit moment pour vous présenter le Festival international de littérature, un festival qui met de l'avant les arts littéraires depuis 1994 déjà quand même. Mm-hmm. Ça dure une dizaine de jours à chaque année et le festival s'approprie les espaces qui sont pas toujours associés à la littérature. Donc par exemple, les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas, les espaces publics. Cette année, ça commence le 24 septembre et ça se termine le 3 octobre. Il y a une programmation en salle, en extérieur, en ligne, bien évidemment. On aime tellement ça. Et aussi pour les jeunes, fait que allez regarder la programmation, il y a tellement de choses à voir. Pour l'instant, je vous recommande deux performances, disons, ou productions culturelles. Une qui s'intitule Nin Owas, moi, l'enfant, la poésie des enfants inoux en images et en mots. Alors, c'est Joséphine Bacon et Laure Morali qui ont sillonné 10 communautés inoues au Québec et ont rencontré plus d'un millier d'enfants et de jeunes pour les accompagner dans l'écriture des poèmes. Elles ont créé avec ça donc plusieurs textes, une anthologie poétique bilingue à la fois en Inuaimun et en français, illustré par Lydia Mestoko-Paradis. Et le Festival international de littérature a décidé, à partir des textes et des illustrations, de créer 3 expositions dans des lieux publics. Alors, vous pouvez vous rendre au Jardin d'art de la Grande Bibliothèque, à l'esplanade de la Place des Arts et aussi à la Maison Théâtre, tu sais, le théâtre à côté du Cégep du Vieux-Montréal, au 2245 rue Ontario Est. Et ça promet, honnêtement. Je l'ai pas vu encore, malheureusement, mais...
Mais moi, j'ai eu la chance de feuilleter l'ouvrage en question, puis c'est absolument magnifique, pour vrai.
Bon, ben très bien, on va pouvoir aller voir ça durant le Festival international de littérature. Une autre suggestion que je vais certainement aller voir au Théâtre Katsu, c'est Baldwin, Styron et moi. Donc, c'est Melika Abdelloumen qui explore l'amitié entre deux écrivains. Un écrivain, ben, William Styron, un blanc descendant de propriétaires d'esclaves, et James Baldwin, un noir descendant d'esclaves, qui était célèbre pour ses œuvres antiracistes. Les deux vont se rencontrer en 1961 lors d'une soirée, et Baldwin va convaincre Styron, donc l'écrivain blanc, d'écrire au je, donc à la première personne, le récit de la révolte d'esclaves menée par un esclave, Nat Turner, en 1831. Styron va faire ça, va publier un livre qui s'intitule « Les confessions de Nat Turner », qui va gagner le prix Pulitzer en 1968. Mais tout ça va lui valoir d'énormes critiques, notamment concernant l'appropriation culturelle. Alors, c'est un... j'ai hâte de voir, en fait, comment ça va être représenté, texte-là, cette performance et cette réflexion-là de la part de Melika Abdelloumen. Et puis, ben, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai ou sinon, ben, allez le voir.
Wow! Tu vas nous en reparler. Donc, je vais rebondir avec une autre suggestion de pièce de théâtre pour laquelle il vous reste une semaine à aller voir la dernière partie de « Qui veut la peau d'Antigone » présenté par le Théâtre de la Sentinelle, donc seule compagnie professionnelle francophone dirigée par des afro-descendants, composée de 3 membres, Philippe Racine, Tatiana Zinga-Botao, ainsi que Linz Dentiste. Donc, cette compagnie de théâtre s'est donné pour mission d'explorer les dimensions du personnage mythique d'Antigone. Donc, cette histoire dans laquelle une jeune femme brave une loi royale pour honorer un frère mort dans une ville qui sort tout juste d'une guerre civile. Pour ce faire, les 3 interprètes aborderont le même texte en offrant 3 versions de ce mythe. Si la Sentinelle, et je lis, a choisi de revisiter cette œuvre, c'est parce qu'elle permet de jouer les oppositions brûlantes qui traversent notre époque. Soit l'affirmation de soi qui exclut les autres et l'idéalisme contre le réalisme. Ces protagonistes, inébranlables dans leur certitude à détenir chacun la vérité, suivent sans rendre compte les chemins qui les mènent à la tragédie. Qui veut la peau d'Antigone sera joué sous la forme d'un monologue durant 3 semaines et à chaque semaine, un et une nouvelle interprète montera sur scène pour donner à voir et à entendre sa version du mythe. Donc, ça a commencé la semaine dernière et ça va se terminer jeudi prochain. Et ce soir, moi et Ève Laurence revenons tout juste de voir la représentation de Philippe Racine. Et c'était...
Excellent.
Ouais.
Je pense que Alex, la première chose qu'elle m'a dit quand on a terminé, c'était « Wow, je crois que c'est la plus belle pièce que j'ai vue. »
Mais...
Ou la meilleure.
Ouais. C'était... J'ai trouvé... J'ai trouvé pour vrai que le jeu de Philippe Racine était... J'ai même pas de mots, comme... C'était complet, son jeu d'Antigone d'abord, était tellement convaincant.
Ouais.
Il y avait comme une douceur, puis une innocence tellement radicale qu'il transpertait de son personnage, de son être, tout en jouant son antagoniste.
Ouais, c'est en fait, c'était très intéressant parce que c'est sûr que récemment il y a eu un film qui est sorti de Sophie Deras qui était vraiment une adaptation d'Antigone dans le monde contemporain, mais là, on revient au texte classique.
Mm-hmm.
Ça, ça m'a surprise en lisant la présentation de ces monologues-là. Je pensais que ça allait être une interprétation, mais en fait, c'est le texte classique, mais tout ce qui entoure la performance, par exemple la scénographie, l'ambiance musicale, vient teinter la pièce à travers l'expérience de la personne qui la récite. Cette fois-ci, Philippe Racine, qui, je crois, est de descendance haïtienne. À travers la scénographie, on voyait beaucoup de symbolisme voodoo, d'interprétation de morts-vivants, avec le décor était... C'était juste comme des cordes rouges. C'était très sombre. Il y avait des sons issus de, probablement, les carnavals en Haïti.
Mm.
Mais tout ça à travers un texte intemporel qui, on le rappelle, a été écrit en 441 avant Jésus-Christ.
C'est incroyable.
Ouais, puis c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'émouvant d'assister et de revoir ce texte-là classique. Tu dis, je sais pas combien de fois ce texte-là a été récité, a été interprété, puis cette fois-ci, c'était vraiment de manière absolument impeccable et vraiment, vraiment intense.
Est-ce que vous direz que c'est d'actualité?
Ben, c'est sûr que ça traite des enjeux qui traversent nos sociétés encore aujourd'hui. Ça traite des enjeux qui nous touchent personnellement aussi, la mort, la justice sociale. C'est 441 ans avant Jésus-Christ, on vivait les mêmes problèmes en tant que société. Ce texte-là les aborde vraiment bien encore. Et très dichotomique, c'est sûr, on s'entend, là, c'est vraiment le mal et le bien qui s'affrontent d'une certaine manière, mais c'est beau, c'est beau à revoir.
Pour vrai, je vous dirais, allez le voir, mais vous pouvez pas, parce qu'il est juste présenté une fois, puis donc chaque représentation a une séance. C'est au théâtre...
C'est au théâtre L'Espace Libre.
L'Espace Libre.
Et puis, la semaine prochaine, si ça vous intéresse d'y aller, s'il reste encore des billets, c'est Litz Dentiste qui va interpréter à sa manière le texte et choisir des segments, finalement, du texte d'Antigone et jouer ça.
Vraiment excellent.
Très bien.
Je tiens à vous dire qu'il reste des billets.
Il reste des billets, bon ben parfait.
Oui.
Arrachez-vous les billets. Et puis ben, ça vous tente de continuer en musique?
Ah oui.
Oh oui.
Alors, je dois vous faire découvrir une de mes obsessions musicales du moment, j'arrête pas. Koreatown Acid. Je vous lis la description de Pop Montréal, parce que Koreatown Acid va jouer à Pop Montréal la semaine prochaine. C'est tout un spectacle, des splashs d'électro en live avec machine et intuition comme seul instrument. J'adorais ça. J'avais envie de vous partager cette description. L'artiste est basé à Toronto. Elle travaille des beats et des rythmes qui sont parfois très décontractés et d'autres fois plus complexes, plus intelligents. Le dernier album de Koreatown Acid qui s'intitule Metamorphosis, je l'ai écouté tellement de fois dans les derniers mois. Il est sorti assez récemment et on y retrouve des collaborations avec des artistes issus du hip-hop et du R&B, mais aussi des pièces solo plus électro. Fait que c'est vraiment varié, je vous le recommande définitivement. Et si vous voulez aller voir Koreatown Acid en spectacle à Pop Montréal, ça va être à l'Entrepôt 77 le 25 septembre, fait que samedi. Prochain. Dès 15h, c'est un événement d'après-midi extérieur dans le Myland. C'est un ancien entrepôt qui ont juste gardé la structure. C'est à ciel ouvert. C'est un beau lieu. Et elle va performer avec Vagina Witchcraft, Malika Tyrolienne, Tania Ayer et All Hands Make Light. Alors, on écoute Koreatown en Acid. Shine it.
cause I keep it shining for you. Tell me, is you down to ride? If it's the inside, while I feel alive, I know it feels like something to do. Tell me, is you down to ride? If it's the inside, when you feel alive, you know something you're willing to do.
De retour, alors la chanson qu'on écoutait s'appelait Bloom de Koreatown Acid Crew. Donc nous l'avons trouvée. Et puis voilà, c'est la tune Bloom, c'est délicieux, c'est parfait, réécoutez-la. Alors de retour, Marc-Antoine au micro. Dans mes grandes découvertes de l'été, j'ai décidé de faire un passage dans le jeu vidéo. C'est rare qu'on en parle, mais il y a des choses incroyables qui se font dans le milieu. Et j'ai décidé de dénoter le jeu Control, qui véritablement est le plus beau jeu vidéo que j'ai joué de ma vie, au sens visuel du terme. C'est un jeu d'action-aventure narratif, au rythme plutôt lent. Je dirais que le gameplay n'est pas nécessairement fou, là. C'est pas le jeu de l'année au niveau du gameplay en tant que tel, mais le contexte, le setting du jeu est absolument incroyable. Je dirais essentiellement que c'est un jeu scénographique où c'est pratiquement une pièce de théâtre animée. C'est un délice pour les yeux, pour la tête. C'est aussi un des jeux les mieux écrits que j'ai joué, où on s'attache à tous les personnages, mais surtout à l'environnement. Donc, une petite histoire courte. L'histoire se déroule à New York, au cœur d'un seul bâtiment qui s'appelle The Old House, qui abrite une agence secrète, le Federal Bureau of Control, ou FBC. Et vous êtes essentiellement, vous incarnez Jesse Faden, qui tente de reprendre le contrôle de la situation alors qu'une entité surnaturelle attaque le bâtiment. À savoir que le bâtiment lui-même est comme un peu vivant, puis se modifie en fonction du parcours du joueur, puis le bâtiment en tant que tel devient pratiquement un personnage à part entière. Je dirais que c'est un jeu qui est architectural, c'est un jeu pour les amateurs de, justement, les amateurs d'architecture, de design, tous les tableaux ont été créés à l'aide justement de gens dans le milieu du design et du cadre bâti. Là, je vous dis, c'est un délice pour les yeux, je vous le recommande fortement. Voilà. Finalement, dernière petite suggestion de l'été, j'ai décidé de donner tous mes points pour l'art urbain cette année à la plage Saint-James. Alors, je vais refaire une chronique dans les prochaines semaines, plus précisément sur... sur mes petites colères puis mes petites réserves face au design urbain montréalais. En général, j'ai peu de bonnes choses à dire, mais j'ai décidé de commencer par... j'ai décidé de ne pas être de mauvaise foi cette semaine, puis de dénoter le petit bijou d'art urbain puis d'aménagement qui est la place Saint-James. C'est un aménagement qui est super simple, qui est efficace, puis de toute beauté, juste à côté de l'église Saint-James United dans le centre-ville. Essentiellement, c'est une plage. C'est véritablement une plage avec un mobilier simple puis des petites installations en bois. Là. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que le décrire, ça va être compliqué. Ça a été réalisé par le studio 2x4 et par le studio Machine que je vais peut-être avoir la chance d'interviewer dans les prochaines semaines pour vous. Je pense que c'est deux studios montréalais qui se démarquent par la richesse de leur concept puis la simplicité de leurs gestes. Je vous invite vraiment à aller le voir, là. Ça va bientôt être démonté, probablement d'ici les deux prochaines semaines. Fait que si vous avez la chance, un samedi, aller prendre une crème glacée, c'est superbe. Donc voilà, bravo. Bravo le studio 2x4 et Machine. 10 sur 10.
Join Pop Montreal's 20th edition this September, featuring a very special presentation. Cakes to Killa, DJ SB, Shades Lawrence, DJ Killa Jewel, and Milla Time at Longchamp 77 on September 23rd, 2021. Doors open at 3:30 p.m. and tickets are on sale now. Do not miss this iteration of hip-hop in the Mile End. More info at popmontreal.com. This is a CKUT co-presentation as part of Pop Montreal International Music Festival.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Bref, n'oubliez pas de vous faire vacciner, c'est très important. Juste avant l'entrevue de notre ami Alex, on va écouter une petite découverte musicale de l'été, du petit disco italien. Je me suis dit que ça faisait un peu différent puis que ça allait faire durer l'été un peu plus longtemps. Alors, je vous invite à écouter Pino D'Angio avec la chanson « Michelaide ».
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa in fondo scusa tu che dai.
Ma è venuto fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai?
Aujourd'hui, je m'entretiens avec Fallon, membre du collectif Bande de Gwyn, qui a organisé la publication et le lancement du roman culte Stoned Butch Blues, du militante transgenre Leslie Fernberg, et dont le lancement aura lieu samedi le 18 septembre prochain à la librairie Le Guélion. Allô Fallon!
Allô!
Vraiment, merci de prendre du temps pour... faire cette entrevue. Et donc, avant de plonger dans l'entrevue, juste pour mettre en contexte, donc le roman Stoned Butch Blues, qui est paru en 1993, est inspiré de l'histoire donc de Leslie Fernberg et il raconte la vie de Jess, personne transgenre née dans un États-Unis réactionnaire et homophobe des années 50. On suit la vie de cette personne, de son enfance à sa rencontre des mouvements naissants LGBT qui arriveront plus tard dans son parcours. Entre-temps, Jess doit affronter une société hostile et extrêmement violente en son égard et envers toute personne qui est différente, disons, de la norme hétéronormative blanche de l'époque et encore aujourd'hui, on peut dire. Et écrit de façon très crue et avec de courtes phrases, le récit propose un portrait réaliste et douloureux sur ce que peuvent expérimenter les personnes trans et homosexuelles, mais aussi l'auteur rend hommage aux communautés qui permettent de survivre ensemble devant la violence du monde. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce petit résumé, Fallon.
Oui, tout à fait. Très beau résumé.
Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de votre collectif, si on peut l'appeler comme ça, Bande de Gwyn?
Oui, Bande de Gwyn qui est, je dois dire maintenant, plus Bande de Gwyn Trans, en fait, c'est okay. Ça. Puis ça me permet aussi d'introduire un peu qui on est. Donc, c'est ça, on est une espèce de collectif un peu informel qui se rejoint par projet. On est des personnes, certaines Gwyn, d'autres trans, des personnes qui ont des identités de genre qui sont fluides. Puis c'est ça, on s'est rencontrés lors d'un colloque féministe Maillage en 2019. Puis on a fait une rencontre en mixé choisie entre Gwyn. Puis finalement, on a réalisé que plusieurs d'entre nous, on avait des parcours similaires ou en tout cas que ça nous faisait vraiment du bien de passer du temps ensemble. Puis après ça, on a décidé de continuer nos rencontres. Puis un des projets qu'on a fait, qu'on fait avec le groupe, c'est le lancement de la version francophone du livre de Stone Butch Blues.
OK. Puis quand tu dis des parcours similaires, est-ce que je peux oser te demander c'est quoi ce genre de parcours-là?
Ouais, ben je pense que c'est un... Outre, mettons, les préférences sexuelles ou les pratiques sexuelles, je pense que c'est un rapport au monde aussi.
Mm-hmm.
Plusieurs d'entre nous, on a des apparences qui sont un peu à l'extérieur des codes de la féminité, par exemple. Fait que ça veut dire qu'on expérience le monde d'une manière différente. C'est ça, on a... Après ça, je vais parler pour moi, mais
mm-hmm.
c'est ça, on se pose des questions par rapport à nos identités de genre. On a envie de collectiviser un peu ces réflexions-là.
Okay.
C'est ça. En jasant un peu de, aussi nos backgrounds d'enfance, de comment on s'est toujours senti exclu, hors norme, hors genre. Mais ça faisait quand même du bien de pouvoir partager ça avec des personnes, c'est ça, non-binaires, Gwyn, c'est ça, sur le spectre queer. Mais c'est plus particulièrement, dans le fond, de nos expériences qui, pour la majorité, c'est ça, sont de parcours non-binaires, Gwyn et trans.
OK. Et puis donc, ça rebondit justement un peu sur le livre Stone Butch Blues. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette parution au Québec? Comme, qu'est-ce que le roman représente pour vous? Ou toi aussi, tu peux peut-être parler de ton expérience par rapport à ce roman-là?
Mais je vais commencer par ta première question sur pourquoi on a décidé, dans le fond, de faire le lancement ici. En fait... Le collectif La Mandragore, qui est une bibliothèque féministe, a imprimé Stone Butch Blues en anglais, en PDF. Puis plusieurs personnes autour de moi, on a fini par mettre la main sur le roman puis le lire. Puis ça nous a toutes profondément bouleversées et enchantées. Puis une personne dans le collectif a des liens avec la maison d'édition Hystérique et Associée, qui sont ceux et celles qui ont traduit, dans le fond, Stone Butch Blues en français, parce qu'il n'y avait pas encore de version francophone du livre. Fait qu'on avait un peu une opportunité de pouvoir organiser un lancement. Puis je pense que ce qui nous intéresse, effectivement, on a comme un rapport très personnel à ce livre-là et collectif, mais c'est aussi un moment de rencontre pour nous parce que c'est un roman qui a vraiment marqué une génération. Puis c'est ça aussi que j'ai peut-être oublié de dire, mais avec le groupe Bande de Gwyn Trans, on s'intéresse beaucoup aux transmissions intergénérationnelles puis aux liens intergénérationnels. Puis pour nous, dans le fond, le lancement de ce livre-là, c'est une opportunité de créer un espace de rencontre qu'on l'ose espérer va être bienveillant entre des personnes qui ont différents parcours. C'est ça. Puis de se rencontrer autour de ce livre-là. Parce que c'est ça. Leslie a différents parcours, puis s'identifie de manière différente au courant de sa vie, puis différemment aussi par les contextes. Fait que ça permet d'aller rejoindre une diversité de personnes qui, normalement, peut-être partagent pas... nécessairement.
Ouais, donc sa diversité rassemble finalement.
Ouais, ben pour nous en fait c'est exactement ça, tu le nommes bien, c'est on a vu dans ce livre-là l'opportunité de rassembler.
Qui est clairement un début de Leslie lorsqu'elle a fait paraître le roman. Puis qu'est-ce qui représente, mettons, pour toi ce roman-là comme dans ton parcours?
C'est une bonne question. Moi, je suis vraiment tombée un peu amoureuse de ce roman-là. Je l'ai lu, puis c'est un page-turner, comme on dit, là. Fait que ça m'a comme vraiment absorbée. Puis je trouvais ça hyper intéressant d'avoir, je sais pas, de rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui est capable de vulgariser comment il s'est senti au courant de sa vie, puis son rapport au monde, justement. Puis ce que je trouvais le plus intéressant dans le livre, c'est que il y a pas de... C'est son rapport à son identité. C'est ça, tu sais. Elle s'identifie comme Gwyn, comme femme, comme Gwyn trans, comme homme trans. Tu sais, il y a une fluidité dans comment que Leslie décide de s'identifier au courant de sa vie. Puis le point commun un peu de ces identités-là, c'est qu'en fait, c'est une personne qui sent hors norme.
Ouais.
Qui ne fit pas dans les cases de féminité ou de masculinité. Puis c'est un peu ça pour moi, son livre. En tout cas, comment moi je l'interprète, sans lui donner des intentions, mais c'est de voir que c'est des identités qui sont en changement, qui fluctuent. Je dis vraiment pas que c'est quelque chose qui est comme ça pour tout le monde, mais moi, qu'est-ce qui m'a parlé dans le livre, c'est justement ça, c'est de partir d'une identité qui va être, par exemple, Butch, tu sais, qui va être Gwyn, puis après ça, de commencer à prendre la testo parce que c'est un moyen de survie, on travaille en usine, c'est vraiment difficile. Tu peux pas être entre les deux. Il faut que soit que, que tu performes un genre féminin, soit que tu performes un genre masculin. Fait.
C'était une autre époque aussi, donc une époque qui était beaucoup moins tolérante envers, l'entre-deux, ouais. Si je peux m'exprimer ainsi.
Vraiment. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je pense que la réalité des personnes non-binaires ou des personnes qui performent des identités de genre qui sont pas dans les normes, je pense que c'est encore difficile de... d'exister, puis clairement que les gens subissent encore de la répression, mm-hmm. puis de la discrimination. Puis, fait que clairement, c'est une autre époque, mais
en même temps, ouais, c'est une autre époque, mais on peut très bien aussi la recadrer ici, là, dans les milieux ouvriers, même au Québec, ça doit être encore assez super similaire.
Complètement, puis tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que ça nous a parlé autant, ce livre-là, c'est que ça vient nous rejoindre, même si c'est une réalité, tu sais, le livre se passe à Buffalo, son histoire de vie se passe dans le milieu ouvrier, à Buffalo, c'est une personne juive en plus, qui est militante, dans des causes syndicales, antiracistes. Mm-hmm. Puis c'est ça, je pense que c'est aussi tout son aspect militant qui m'a rejoint beaucoup. Puis c'est ça, de voir que c'est pas une ligne claire et définie, puis que c'est correct aussi de faire des allers-retours, de se questionner, tu sais, que nos identités sont pas obligées d'être figées, dans le fond. Puis je pense que ça, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça qui m'a parlé beaucoup.
Merci, très intéressant. Donc, puis pour terminer un peu cette entrevue, on peut pas parler de ce livre, bien, selon moi, sans parler l'un des aspects les plus intéressants et radical du processus de Leslie Feinberg, soit celui de son rapport au droit d'auteur et à la traduction. Donc, pour la petite histoire, IL ne s'attendait absolument pas à un tel engouement autour de son livre et IL a été la première personne surprise de sa popularité. Le roman circule effectivement partout à travers le monde et a été traduit dans 8 langues, si je me trompe pas, ce qui en dit long aussi sur l'universalité de cette histoire. Or, si Leslie Feinberg a dû se battre pour récupérer ses droits sur le livre alors que la première éditrice du livre a fait faillite, aujourd'hui, et elle en détient l'entièreté et restitue ce roman, et je cite, « aux travailleurs et travailleuses et aux opprimés du monde entier ». Et IL en interdit les contrats, les utilisations commerciales, les usages dérivés et les droits numériques. Donc, Fallon, ça c'était comme le côté un peu plus théorique, mais est-ce que tu pourrais nous parler plus de comment, concrètement, on peut traduire le roman de Leslie Feinberg, comment on peut le mettre en impression, comment, mettons, à partir de ton expérience personnelle avec le collectif, comment
Hystérique qui est associé. Ouais, c'est ça, on fait, pour mettre aussi quelque chose de clair, nous, c'est ça, on fait juste partager la publication ici, mais tout le travail d'édition et de traduction a été fait par des camarades en France sous le nom d'un collectif qui s'appelle Hystérique qui est associé. Puis ces personnes-là, c'était pas des personnes traducteurs, traductrices au moment où est-ce qu'ils ont traduit le livre. C'est comme tout du travail bénévole, dans le fond. Puis, par échange courriel, ce qu'on a appris avec eux et elles, c'est qu'en fait, pour pouvoir traduire le livre, il a fallu que je communique avec la dernière partenaire de Leslie. Parce qu'en fait, Leslie est décédée en 2015, je pense. Puis, c'est ça, dans le fond. Comme tu l'as bien dit, Leslie voulait absolument pas que le livre soit récupéré par des maisons d'édition pour que les gens puissent en faire du profit, etc. Mm-hmm. Fait que tout ce qui est de la traduction, c'est vraiment très rigide. Dans le fond, il n'y a pas de nature naissante à interprétation. Il n'y a pas personne qui peut dessiner un nouveau cover. Il n'y a personne qui peut écrire une nouvelle préface. Il n'y a personne qui peut... c'est ça. Tous les commentaires qu'on peut rajouter, c'est juste des notes de traduction. Mm-hmm. Fait que quand que nous, on a voulu, qu'on a eu l'idée, dans le fond, d'organiser un lancement ici, on s'est dit, OK, on va lire le livre en français. On l'avait lu en anglais, mais c'est ça, on va le lire en français. Puis finalement, on a vu, justement, qu'en France, ils ont traduit « native », comme « native American », que Leslie utilise dans son livre, sous les termes « natif ». Puis là, on s'est dit ici qu'on a une responsabilité quand même face à la publication d'un tel roman. Fait que là, nous, on a voulu rajouter une note de traduction, dans le fond. Puis c'est ça qui a pris. Nous, c'est là que notre processus a embarqué, d'ailleurs, un petit peu plus. C'est de se dire, OK, ben en fait, on a une lecture critique aussi de comment la traduction a été faite de l'œuvre de Feinberg. Puis pour nous, c'est important de faire une mention que c'est ça, que de nommer toutes les nations autochtones sur le territoire, puis de dire mm-hmm. que c'est ça, ça se passe, on organise le lancement en territoire non cédé, puis que ça, c'est un peu notre responsabilité à nous de rajouter. Fait que c'est ça. On a demandé à des amis de pouvoir rajouter une note de traduction.
OK. Puis le processus en France, c'est ça, il a duré sur plusieurs années avec
ouais.
plusieurs traducteurs, traductrices.
Oui, c'est un processus qui a pris 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Puis gros shout-out à Historique et Associés d'ailleurs, qui nous ont vraiment fait confiance, puis qui nous ont donné un peu tout leur labeur. Là.
Ouais.
Fait que c'est ça. Puis nous, dans le fond, on a finalement imprimé les livres ici à cause que c'était plus simple, puis moins coûteux.
Mm-hmm.
Puis on en a fait un tirage limité, parce okay. que Historique et Associés, ils viennent de se trouver un fournisseur. Fait que là, après ça, c'est eux et elles qui reprennent la distribution du livre. Mais il va avoir la version, la note de traduction au soi-disant ouais. Québec qui fait mention de la...
Qui va être ajoutée, donc ça va être l'édition spéciale version Québec.
C'est ça.
Puis pour rajouter quelque chose justement sur qu'est-ce que Fallon disait par rapport à justement ce fait que Leslie Funberg ne veut pas que personne reproduise son livre en face des dérivés, j'ai noté une citation vraiment intéressante qui, elle, fait dans ses volontés et droits de l'auteur, et je pense que ça vaut quand même la peine de la lire parce que ça démontre vraiment bien aussi comme ces volontés qui sont fermes et radicales. Donc, je commence la lecture. « J'ai fait un choix en écrivant Stone Butch Blues. Un choix bas. Sur ma colère de voir tant d'auteurs, blancs, blanches, considérer la blanchité comme une évidence et décrire leurs personnages uniquement lorsqu'ils, elles, sont racisés. Un choix basé sur ma couleur contre les auteurs pour qui la minceur est la référence et qui précise uniquement la grosseur lorsque les personnages sont gros. Grosse. Contre les auteurs qui considèrent implicitement que leurs personnages sont valides et n'ont aucun handicap, mais qui leur collent une étiquette dans le cas contraire. Cela implique que les différentes personnes qui livrent ce livre auront différentes images quant au gabarit, silhouette, capacité et autres des personnages. Et en tant que lecteur-lectrice, toutes ont un point de vue valable. » Donc, c'était une citation que je trouvais vraiment très intéressante et qui décrit bien aussi le personnage que représentait Leslie Funberg. Donc, roman vraiment nécessaire, hein? Même pour les personnes qui s'identifient pas comme... lesbienne, queer ou trans, c'est nécessaire pour sensibiliser aussi à cette réalité-là. Est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin, Fala?
Un peu pour rebondir, je pense, sur qu'est-ce que tu dis. Il y a une citation de Leslie aussi qui dit que un des buts de ce roman-là, c'était justement de démocratiser les idées queer, tu sais, de faire comme, voilà mon expérience vécue, puis que c'est pour ça aussi que le langage du livre, il est si accessible, je pense, que c'est comme dans le désir de pouvoir partager les expériences. Puis je pense que nous, on s'inscrit un peu en continuité avec ça. Puis c'est pour ça qu'on a envie de saisir l'opportunité pour vous inviter, tout le monde, au lancement le 18 septembre à l'Eugélion en mode 5 à 7.
Yes!
Donc, un moment de rencontre où la bienveillance est de mise.
Merci beaucoup, Fallon. Puis on va aller tout de suite en musique avec la chanson... excusez-moi, je la trouve pas. Oui, la chanson, donc, « Les lumières ont tué la nuit » de Claude Lanthrope, qui fait partie d'ailleurs de ce collectif aussi, Bande de Gwyn, qui est tiré de l'album du même titre et qui est sorti vendredi le 10 septembre dernier. Bonne écoute tout le monde, bonne soirée. That's it!
rush déborde de rush que nous ne savons plus lancer. Il nous faudrait des ennemis tangibles, du bois à fendre, des collets à nouer, une arborescence intelligible de la clarté, lier les archipels de l'obscurité.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Pop Montreal International Music Festival is celebrating its 20th anniversary from September 22nd to 26th, 2021. 5 days of music, films, art, crafts, panels, and more, featuring Cakes Tequila, Backwash, The Besnard Lakes, The Deers, Handsome Eli, and more. Tickets on sale now at popmontreal.com.
Other than that, I mean, you know, what's going on? What do you say?
Buenas tardes.
And we'll be back.
Missed your favorite show? Not a problem. Go to www.ckut.ca and follow the link to CKUT's easy-to-use archives. Instructions are on the page. 2 months' worth of archives are stored in mono and half a month's worth in stereo.
Pleasant good afternoon to you, Montreal.
If you're having trouble, please email sys@ckut.ca. That's sys@ckut.ca.
Oh, yeah! I want to be a motivator.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
We are back. This is Listening to Latin America in 90.3 CKUT.
Así es, amigo José. Volvemos a nuestro programa de cada dos semanas, Listening to Latin America. Estamos con un programa bien especial hoy. Como ustedes saben, nosotros hacemos este programa en colaboración con Macondo del Club de los Feos. Nosotros somos Slaza, ellos son Macondo del Club de los Feos. ¿Por qué los separo? Normalmente yo digo es una colaboración. Pues es que desde que empezó la pandemia, Slaza hemos estado grabando la primera hora del programa, Macondo del Club de los Feos, los extrañamos tanto, han estado grabando la segunda mitad del programa. Y pensamos que esta era la oportunidad perfecta para presentarnos Slaza como la nueva generación. Es nuestro tercer año de estar haciendo estas grabaciones y queríamos presentarles el nuevo equipo, los nuevos proyectos que estamos haciendo y quién mejor para presentarles tales proyectos como Jenny Morales y Eric Pelayo Aubert, los copresidentes de Slaza. Por favor, Jenny, Eric, ¿por qué no saludan a la gente y nos explican un poco de qué es Slaza y quiénes son?
Hola a todos, soy Eric, aquí el Cupres, y aquí tenemos a Jenny también que nos acompaña. Estamos muy, muy felices de estar aquí el día de hoy, y siento que lo más importante es que muchos, muchos, muchos de nosotros estamos aquí.